podcast.
Ouais, un épisode spécial de Radar en ce 3 mars 2025, Anthony Desauniers, mais pas Pierre Lebrun. Martin Thériault qui se joint à nous. Salut, Marie.
Salut, salut, des autres qui écoutent, content de l'invitation. Ben écoute, on se serait probablement parlé quand même, mais très, très heureux d'être là pour cette semaine spéciale. Écoute, c'est la dernière semaine, il y a plusieurs épisodes. C'est excitant d'avoir justement les dernières rumeurs, les dernières transactions. Puis c'est plaisant de parler avec les amateurs de hockey, puis c'est plaisant de le faire avec mon bon vieux chum des eaux aussi. Là.
Effectivement. Bon, Marty, tu l'as dit, on va être avec vous toute la semaine parce que j'ai réalisé au fil des années que la date limite des transactions, ça allait évoluer, Marty. J'en ai parlé avec mon patron, Alex Panton, puis on s'est dit, ouais, il faut faire quelque chose. C'est fini le temps où est-ce que toutes les transactions ont lieu lors de la journée de la date limite. Il y a plusieurs transactions qui se font en amont, donc toute la semaine, de lundi à vendredi, on va être avec vous en direct sur cette plateforme, sur le YouTube de BPM Sport et celui de la Commission athlétique pour discuter des dernières transactions dans les heures précédentes et les rumeurs de ce qui s'en vient. Puis ce qui est le fun, contrairement aux autres podcasts de la Commission athlétique, c'est qu'on le fait en direct. Donc, on est là avec vous, on va prendre vos commentaires, on va prendre vos idées. Je pense qu'on va passer une belle soirée ensemble. En fait, je devrais dire, Marty, on va passer une belle semaine et on va avoir beaucoup de plaisir. Bon, je ne peux pas passer à côté de la plus grosse transaction qui a eu lieu au cours du week-end. Seth Jones et un quatrième choix contre Spencer Knight et un premier choix. Marty, c'est quoi tes impressions rapidement sur cet échange?
Pas mal surpris, puis c'est excitant de voir ça, tu sais, ces genres de transactions-là. Quand tu parles d'un joueur qui a énormément d'années de contrat, tu sais, on s'entend, lorsqu'on pense à des joueurs comme ça, on se dit « Ah, ben il est pratiquement pas bougeable, il est pratiquement pas échangeable. » Mais là, non seulement on est capable d'échanger Seth Jones, puis tu sais, je pense qu'il fallait le voir venir. Seth Jones était très malheureux. Je pense qu'il, après un match en Utah, avait fait valoir vraiment fortement son mécontentement par rapport aux prestations des Blackhawks, qui ne vont nulle part. Ça va clairement pas dans la direction où Seth Jones est dans sa carrière. Il veut gagner. Il n'a jamais eu la chance, même proche, de gagner une Coupe Stanley. Donc lui, c'est clair qu'il se voit justement être dans une équipe compétitive. Mais là, c'est de voir qu'il est échangé ailleurs. Puis là, on n'a pas eu peur du côté des Panthers, du côté des Blackhawks plutôt, de retenir 25% du salaire pour 5 ans jusqu'en 2030. Je sais que les Blackhawks ne sont pas prêts de gagner demain matin, là, mais c'est super impressionnant parce que si tu vas dans le futur, dans 3 ou 4 ou 5 ans, ben c'est quand même un 2,5 millions qui est amputé sur ta masse salariale et qui peut te faire mal à quelque part, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de voir également que, tu sais, il peut y avoir justement toutes sortes de tractations, justement le fait que ça devient intéressant à surveiller la date limite. Donc, surprenant, mais agréable à voir.
Mais ça, Marty, là, tu sais, on dirait qu'on peut le dire rapidement. Ah, c'est 2,5 millions, le plafond salarial va augmenter, c'est pas grave. Mais ça reste quand même une cartouche que tu as brûlée sur 5 ans. Tu as 3 retenues de salaire par année. Mais cet impact-là, il est sur la durée totale de la retenue. C'est donc dire que les Blackhawks de Chicago, jusqu'en 2030, ils n'auront que 2 retenues de salaire. Je trouve que pour une équipe qui est en reconstruction, c'est gros quand même comme manœuvre de la part de Cal Davidson.
Ouais, ben, je pense vraiment que tu te débarrasses d'un problème à quelque part. Je viens de mentionner que Seth Jones était un peu mécontent. Je pense que ça peut expliquer une partie de la chose. Je me demande si on ne pense pas du côté des Blackhawks qu'avec le futur de des défenseurs, puis je pense à des défenseurs qui ne sont pas nécessairement bons, qui ne vont pas demander un 7 ou 8 millions de dollars dès leur deuxième entente. Donc, tu sais, des Kevin Korchinski, des Artem Levchunov qui est dans la Ligue américaine. Je peux penser à Alex Vlasic qui va très bien sur la première paire à Chicago. Tu ajoutes des morceaux comme ça. Je pense qu'on fait un peu le pari de se dire, bien, ces gars-là, je pense à Levchunov notamment, dont, pour ceux qui ne connaissent pas la technicalité, comme il est dans la Ligue américaine et qu'il a moins de 20 ans, bien, le contrat peut être repoussé dès son année de 20 ans, donc l'an prochain. Donc, tu sais, si tu fais un peu le calcul, supposons Levchunov, présentement, son contrat, en anglais, on va dire « slider », tu peux le repousser un peu. Donc, elle lui donne un contrat dans 4 ans, par exemple. Puis là, ben avec les autres défenseurs qui peuvent venir, je me demande si on se dit pas, on est capable d'absorber peut-être le 2,5 millions, puis la masse salariale va continuer d'augmenter, le plafond plutôt va continuer d'augmenter, on va être capable d'avoir de l'espace, puis on va s'en sortir. Mais je vais être honnête avec toi, tu as un peu raison, Deso, ça demeure risqué parce que tu peux y aller avec toutes sortes de décisions qui ne tourne pas nécessairement à ton avantage. Parfois, ça change vite. Là.
On va aller du côté des Panthers de la Floride. Seth Jones, excellent défenseur, qui honnêtement, moi je le considérais, Marquis, comme un des pires contrats dans la Ligue nationale de hockey. Pas tant pour le joueur, mais aussi pour la situation d'amener ce contrat-là alors que ton équipe s'en va nulle part. Une drôle de décision quand même des Hawks qui ont pris ce virage-là avec Seth Jones. Mais à 7 millions, dans une formation des Panthers de la Floride qui, dans les dernières années, a fait venir des Sam Bennett, a fait venir des Sam Reinhardt, a fait venir des joueurs comme ça de l'extérieur, des Brandon Montour, de l'extérieur pour venir bien s'assembler dans le casse-tête, il pourrait vraiment être très efficace au sein de la brigade de Paul Maurice.
Ouais, je pense qu'il y a deux façons de le voir des autres. Ben, évidemment, il va être super utile. Je pense que tu ajoutes vraiment un gros élément de profondeur sur la deuxième paire. J'enlèverais un Dmitri Kulikov, mais là, si tu l'ajoutes avec un Nico Mikola, c'est pas un grand défenseur offensif, Nico Mikola, mais il est physique, pas à peu près. Si tu mets ces deux joueurs-là, un à côté de l'autre, attention pour être capable de traverser la ligne bleue adverse du côté des Panthers, ça donne un avantage. Donc, c'est sûr que sur le court terme, tu peux espérer quelque chose. En même temps, ce qu'il a présenté à Chicago, et je te dirais même à Columbus, il y a 4 ou 5 ans, défensivement, de mémoire, puis tu le vois un peu son différentiel, moins 18, en 2020-2021, je comprends que ça ne fait pas foi de tout, mais déjà à l'époque, on commençait à avoir un peu une perte de régime. Je comprends qu'il joue avec une équipe qui était moins bonne. Ça demeure un très gros risque. Cependant, et là, je vais aller sur le long terme, Tyron McBlatt qui devient joueur autonome sans compensation à la fin de la campagne. J'ose espérer qu'on pourrait le ramener, mais si on n'est pas capable, bien au moins tu te donnes une police d'assurance et une méchante bonne avec un Seth Jones qui est capable de transporter la rondelle, qui a une excellente tir, qui a un gros flair offensif à défaut d'avoir des problèmes peut-être un peu plus défensifs. Mais je pense que c'est ça. Je pense que ça aide les Panthers pour une course, une longue course ce printemps. Mais je pense qu'en même temps, ça les aide à long terme. Ça rassure un peu si on n'est pas capable de s'entendre avec un Ekblad, par exemple.
Moi, on a énormément parlé de Lautan Carlson lorsque Eric Carlson s'est amené à Pittsburgh, deux droitiers qui avaient quand même un rôle similaire. Je le sais, le Ekblad et Jones, ce n'est pas le même genre de joueur, mais ça reste deux droitiers. Vont-ils être capables de coexister ensemble?
Ça, je pense que c'est la meilleure question possible. Évidemment, tu ne pourras pas faire jouer tout le monde sur l'avantage numérique. Puis les Panthers ont énormément de talent à l'attaque. On est capable d'y aller à quatre attaquants puis simplement un défenseur. C'est sûr que ça pourrait peut-être affecter un petit peu la production offensive d'un Seth Jones. Mais je pense que c'est un peu plus logique que dans le cas de Carlson et de Lautan, qui sont des défenseurs, on va être honnête, qui avaient le même prototype. Deux défenseurs offensifs, deux défenseurs qui sont des quarts arrière en avantage numérique, mais deux défenseurs qui ont de la difficulté défensivement. Les deux font à peu près la même chose, donc c'est sûr que tu en as un qui est grassement payé qui va écoper. Puis c'est ce qu'on voit du côté de Pittsburgh. Je pense qu'au moins que Jones, par son apport peut-être un petit peu plus offensif qu'Ekblad, qui lui est très complet, ça donne vraiment une marge de manœuvre. Puis c'est ça, je pense vraiment qu'au niveau du top 4, c'est pas comme si... T'sais, oui, Gustav Forsling et Ekblad sont très bons, mais je pense qu'ils vont pouvoir un peu plus répartir le temps de jeu, ce qui n'était pas nécessairement le cas lorsqu'on avait un Kulikov, par exemple, sur la deuxième paire.
Marty, je me dirige du côté de la messagerie texte pour aller voir un commentaire de Steve. Si Connor Bedard n'est pas heureux, il pourrait bien demander d'être échangé à sa quatrième saison, on ne sait jamais. Pas impossible, je serais quand même surpris que les Blackhawks de Chicago aillent dans cette direction-là, mais le fond de la question est quand même intéressant, Marty. On dit que les Blackhawks de Chicago ont un manque de vétérans. On a essayé par le passé certains joueurs, notamment l'expérience Corey Perry qu'on a vu passer. Ça a été un fiasco à Chicago. Puis on voit que là, on échange un Seth Jones, un autre vétéran. Comment est-ce que tu penses que Connor Bedard prend cette nouvelle-là aujourd'hui? Est-ce qu'il a l'impression de faire un autre pas de recul et de retarder encore le moment où est-ce qu'il va jouer du hockey significatif à Chicago?
Ben, je pense, j'ose espérer qu'on lui a expliqué le plan comme il se doit, de se dire, ben écoute, on veut construire avec toi, on veut se rendre dans 4 ou 5 ans et avoir une équipe extrêmement compétitive, ça passe par, puis tu sais, il ne faut pas l'oublier, on obtient quand même Spencer Knight. Moi, Spencer Knight, je te dirais, dans les 7 ou 8 dernières saisons, dans les espoirs au niveau des gardiens de but, c'était mon préféré. C'est un gars qui donne extrêmement peu de mauvais buts. Puis moi, je trouve que c'est important chez un gardien de but. Ta défense peut être plus rassurée. Tu n'es pas constamment sur le qui-vive parce que ton gardien de but, il est un peu inconstant. Soudainement, il donne un mauvais but sur un tir de loin. Donc, tu sais, au moins, tu obtiens une bonne pièce devant le filet. Puis de l'autre côté, c'est sûr que Connor Bedard, on le connaît depuis son époque dans les rangs juniors avec les passes de Regina. C'est un gars compétitif, c'est un gars de caractère. Moi, je pense que c'est sûr qu'il a peut-être un peu pris de travers. Un joueur de hockey veut avoir les meilleures chances de gagner possible, peu importe le plan qui est autour de lui. Je pense que le compétiteur en lui de peut-être un peu dérangé. Puis je pense que si t'es Carl Davidson, ben il t'aime ça. Tu veux un leader comme ça qui est capable de justement détester la défaite, qui déteste de reculer un peu, qui va choquer, ben il va dire, ben écoute, je vais en donner un peu plus pour aider notre équipe à gagner. Mais en même temps, il faut être réaliste. Là, tu regardes un peu leur formation, tu regardes le premier trio. T'as Landon Slaggart et Frank Nazer là, sur le premier trio. T'sais, tu regardes les autres équipes de la section centrale, tu es obligé de dire que tu n'es pas de calibre présentement. T'sais.
Non, c'est sûr que tu n'es pas de calibre présentement, mais ça, c'est la réalité d'une reconstruction. En même temps, Marty, tu as mis déjà la main sur Connor Bedard, qui est ton joyau à l'attaque. Tu as mis la main sur Artem Lefchunov au dernier rencontre au deuxième rang. Ils ont aussi rajouté des gars comme Sacha Boisvert, comme Marek Vanacker, comme Oliver Moore par le passé. Puis là, tu vas chercher t'sais, Frank Nazar, Kevin Korchinski, Lucas Reichel. Et là, tu vas chercher un Spencer Knight. Fait que tranquillement, pas vite, on commence à se bâtir certains morceaux. C'est juste qu'il faut continuer à rester patient à Chicago, mais je suis quand même confiant pour leur avenir. Les Blackhawks, pas les Blackhawks de Chicago, mais les Panthers de la Floride ont annoncé que Matthew Tkachuk était placé sur la liste des blessés à long terme. Tout le monde le voit venir gros comme le bras. On va le placer sur cette liste-là. On va économiser son salaire de 9,5 millions. Est-ce qu'on va être actif, Marky? Est-ce que Bill Zito va bouger pour aller se rajouter un autre élément avant de voir Tkachuk revenir en série?
Ben, la logique serait de dire oui. On sait comment les Golden Knights de Vegas ont souvent profité de ça avec entre autres Mark Stone. Là, le problème, par contre, c'est que ça prend quelque chose à échanger. Et tu regardes qu'est-ce qui se passe côté des Panthers. Évidemment, on ne va pas échanger des vétérans. On va garder tout le monde. On veut garder le noyau le plus solide possible. Donc, tu sais, même si un Sam Bennett devient joueur autonome sans compensation, on s'entend qu'on va le garder, là, c'est assez clair. Donc là, il faut que tu regardes un peu plus au niveau de la banque de jeunes et des espoirs. Et malheureusement, on a énormément d'espace. Mais là, le problème, c'est que on n'a plus vraiment de choix de premier tour jusqu'en 2027. Évidemment, on pourrait échanger le choix de premier tour en 2027, se rendre deux repêchages plus loin. Et au niveau de la banque d'espoir, moi, personnellement, je trouve que c'est mince. Et même Scott Wheeler de The Athletic l'a déjà mentionné dans son classement des meilleures banques d'espoir. Il a placé les Panthers au 32e rang. Je vais vous donner des noms. Je suis pas mal sûr que ça... Probablement que les férus d'espoir savent un peu plus, mais tu sais, des Justin Sordiff, des Grayson Sachin, des Sandis Vilmanis, on parle de gars bons, mais tu n'as pas d'espoir de haut niveau. Donc, je pense que si tu vas aller chercher un joueur de premier plan, tu sais, à la Brock Besser, à la Brock Nelson, je ne suis pas sûr qu'on a nécessairement les actifs pour être en mesure d'accomplir cette transaction-là. Ce que je pourrais peut-être voir, c'est qu'il soit en mesure d'aller chercher un joueur qui vaut peut-être un petit peu moins, soit un joueur de location qui est peut-être dans la deuxième catégorie, je pense, à notamment un Carl Palmieri à 5 millions de dollars par année. Les Islanders vont un peu nulle part. Il devient joueur autonome sans compensation. Est-ce qu'on pourrait aller vers lui? Peut-être. Est-ce qu'un Brandon Tanev, en termes de profondeur, qui a moins de bonnes saisons, est-ce que ça pourrait aider aussi? Peut-être aussi. Et du côté des Penguins de Pittsburgh, tu as Ricard Raquel. Je ne suis pas certain que je toucherais nécessairement à son contrat. Mais 5 millions pour 3 ans, étant donné que justement Raquel, peut-être qu'il est moins alléchant en raison de cette entente contractuelle-là. Bill Zito vient d'obtenir un Seth Jones qui a justement un mauvais contrat. Est-ce que ça pourrait être une option? C'est possible, mais je vois mal les Panthers être en mesure d'attaquer les gros morceaux de cette période des transactions-là parce que tout simplement, on n'a pas grand-chose à échanger.
Ouais, le seul problème, c'est que si tu rentres dans le Derby Raquel, comme tu l'as dit, tu as 3 autres saisons à 5 millions. Tu as non seulement Gladessien, comme on a parlé, mais tu as aussi Bennett. Là. Et Bennett, qu'on parle beaucoup à Montréal, surtout depuis la Coupe des Quatre Nations, qui est un favori, je te dirais. On ne pourra pas payer tout le monde, Marky. Donc, ça va être intéressant de voir dans quelle direction Bill Zito va aller pour d'ici la date limite de transaction. Mais moi, je suis convaincu qu'il sera à nouveau actif. Inscris-toi sur ubet.io avec le code RADAR et profite d'un match de dépôt à 100% sur ton premier dépôt jusqu'à 100 $ canadiens. Inscrivez-vous sur ubet.io. Marty, on va aller du côté du Wild du Minnesota qui a fait l'acquisition de Gustav Nyquist contre un choix de deuxième tour en provenance des Prédateurs de Nashville. Est-ce qu'on répond à un besoin réel chez le Wild avec l'acquisition de Nyquist?
Ouais, vraiment. Ben, tu sais, du côté du Wild, je pense que c'est assez connu depuis environ 2 ou 3 ans. Les contrats de Ryan Suter et de Zach Parise font extrêmement mal. Puis là, je vais te ramener 2 saisons plus tôt. Justement, la façon que ça fonctionne, c'était sur une période de 4 ans. Les 2 premières saisons, c'était moins grave. L'impact sur la masse salariale était environ de 5. Puis à un moment donné, ça a monté de 10 millions. Mais pour les deux saisons suivantes, donc la dernière et celle actuelle, là, c'était le contrat au total. Donc, tu sais, les 15 millions, tu avais 15 millions de dollars amputés sur la masse salariale pour 2 joueurs qui ne jouent même pas avec ton équipe. Et la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que Gustav Nyquist, il y a 2 ans, jouait avec le Wild, avait été obtenu. À l'époque, c'était une transaction avec les Blue Jackets de Columbus. Et Nyquist avait été excellent. C'est probablement l'une des meilleures acquisitions que le Wild a pu faire dans la période des transactions dans les dernières années. Il avait été à peu près un point par match. Il avait été extrêmement utile. Je sais que Bill Guérin était intéressé de le garder, mais étant donné qu'il n'y avait pas de place sous la masse salariale parce que les contrats de Souter et Parisé augmentaient, mais ça a fait en sorte que Nyquist a dû se rabattre sur les Prédateurs de Nashville. Là, on se retrouve 2 ans plus tard. Le Wild, en raison de cette situation-là, un gros manque d'attaque, un gros manque de profondeur. Et là, en ce moment, sans Kirill Kaprizov, on a de la difficulté à marquer des buts. C'est clair, on l'a vu hier, une victoire de 1-0 contre les Bruins, mais justement, un seul but. Le trio de Matt Boldy, présentement, ne va pas très bien. On tente toutes sortes de combinaisons du côté de John Hines. Donc là, d'amener quelqu'un qui connaît la majorité des joueurs, que Bill Guérin a déjà aimé au point où il voulait le garder il y a 2 ans, et peut-être d'espérer que Nyquist puisse relancer sa saison. C'est pas très facile cette année, mais c'est quand même quelqu'un qui a 75 points la saison précédente. Est-ce que c'est dû au fait que ça va moins bien à Nashville? Moi, j'ai l'impression que Bill Guérin veut miser là-dessus. Et ben, en ce moment, c'est une équipe qui est en perte de vitesse. Je pense que d'ajouter un Nyquist, pour toutes sortes de raisons, ce qui peut prendre la place d'un Ryan Hartman, ce qui peut prendre la place d'un Marcus Johansson, qui lui aussi a une saison difficile. Je pense qu'honnêtement, c'était... T'avais pas le choix du côté du Wild.
Ouais, c'était un court passage avec le Wild, si on est honnête. Là. Il avait joué seulement que 3 matchs de saison régulière, mais il avait été excellent en série avec 5 points en 6 rencontres. Donc, on verra bien s'il sera capable d'être encore une fois efficace. Marty, Michael Russo de The Athletic a mentionné sur Twitter la semaine dernière, c'est une évidence que le Wild devrait s'intéresser à Jake Evans et Joel Armia parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à défendre en désavantage numérique. Si je regarde les statistiques, ils ont 70,5% de réussite. Ils arrivent au 30e rang dans la Ligue. C'est franchement mauvais. Je ne crois pas de cachette à ce niveau-là. Est-ce que c'est encore une possibilité que Evans et Armia déménagent du côté du Wild ou l'acquisition de Nyquist vient un petit peu refroidir les ardeurs là, à ce niveau-là?
Je pense que l'acquisition de Nyquist rend ça un peu plus difficile, surtout du côté d'Evans. Puis, du côté d'Evans et du côté masse salariale du côté du Wild, là, je le répète, mais c'est une équipe qui est à la gorge, là, pas à peu près, au point où en fin de semaine, on a dû envoyer Marat Ouzhnoudinov, un jeune espoir qui joue à peu près sur le 4e trio, qui n'a pas un très gros contrat, là, qui gagne essentiellement 925-950 000 $. On a dû l'envoyer dans la Ligue américaine parce qu'on voulait être en mesure d'accumuler de l'espace sous le plafond salarial pour la date limite des transactions. Tu sais, c'est grave, là. Ça veut dire, et Bill Guérin l'a un peu mentionné aux médias, il a dit « Si on fait une autre transaction, je ne peux rien écarter, mais il va falloir sortir du salaire et en ajouter. » Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que je pense que Armia, ce serait un peu plus difficile. Je pense qu'à l'aile, avec l'acquisition de Nyquist, on est un peu plus correct. Mais là, au centre, avec Joel Eriksson-Ek qui s'est blessé dans un entraînement, est blessé jusqu'à pratiquement la fin de la saison, mais là, du côté du Wild, Kaprizov est présentement sur la liste des blessés à long terme. Mais on est confiant de le revoir à la fin de la saison. Donc, ce n'est pas comme avec Matthew Tkachuk où on peut se permettre d'ajouter, par exemple, un salaire à 5 millions d'un coup. Le Wild doit se garder de l'espace pour être en mesure d'ajouter à un moment donné Eriksson-Ek ou Kaprizov ou Jonas Brodin qui est blessé également. Donc, je te dirais, on a énormément besoin de Jake Evans. Tu l'as bien mentionné, le désavantage numérique, ça fait 2 ans que c'est épouvantable au Minnesota. Et je te dirais aussi au niveau du cercle des mises au jeu. Le Wild est 30e. On n'a pas de très, très bons joueurs à ce niveau-là. Il y a Frédéric Godreau qui se débrouille bien. Mais sinon, là, tous les autres centres en arrachent. Donc, je te dirais, oui, ce serait un très gros morceau, un très gros besoin. Puis, je trouve ça curieux que Michael Russo apporte ça. Là. C'est le journaliste attitré à la couverture du Wild du Minnesota. Parfois, il lance un peu ça dans les airs et on dirait que ça se produit. Là. Je suis pas sûr que ça va se produire, mais je surveillerais quand même le dossier. Là. C'est intriguant. Là.
Ouais, parce que mettons qu'on rentre dans les coulisses là, des insiders, parfois, il y a certains beat reporters qui sont bien pluggés et qui avancent des idées parce que le directeur général leur a soufflé à l'oreille. Mm-hmm. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça va 100% arriver. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas cette fois-ci. C'est peut-être juste vraiment une opinion de la part du journaliste. Mais des fois, il y a des beat reporters qui aiment ça avoir l'air intelligent aussi et qui vont proposer à l'avance. Donc, ça, ce sera à surveiller. Marky, je fais ça rapidement, mais quand même, je suis curieux de t'entendre. Jake Evans, est-il maintenant impossible d'être échangé puisque Kirby Dack est blessé? Est-ce que ça fait en sorte que le Canadien est maintenant menotté et n'a pas le choix de conserver des joueurs de centre? Parce qu'on ne veut pas non plus déplumer le Rocket en pleine course aux séries éliminatoires, eux qui sont très bien placés.
Je pense que c'est une situation qui est super difficile, désolé, parce que là, si tu avais gardé Kirby Dack, tu peux dire « Bon, on va échanger Jake Evans, tu peux en continuer ta saison avec un Christian Dvorak. » On voit comment Wendek joue super bien avec les Canadiens en ce moment. Il fait un excellent travail au sein du deuxième trio. Tu peux peut-être un peu plus te le permettre. Mais là, le problème, c'est que si... ben là, c'est justement qui va... Si tu sors Jake Evans, qui va prendre ce poste-là? Est-ce que tu peux le donner... à Lucas Condotta, je suis pas sûr que tu peux vraiment mettre Lucas Condotta dans une chaise comme ça. Puis là, ça devient un peu un dilemme entre est-ce que tu veux continuer ta reconstruction, accumuler des actifs, ou, mais de l'autre côté, d'envoyer le message, ben on abandonne, vous avez bien beau avoir une très bonne équipe, mais on se fout un peu des résultats que vous êtes en mesure d'apporter sur la glace. Et je pense que Kent Hughes vaut quand même de l'importance à ça. Si les gars se battent, qu'ils lui donnent des victoires présentement, que ça va bien, au point où Martin Saint-Louis ne veut même pas détruire ses trios, ben, je pense qu'à un moment donné, la solution pour Kent Hughes, je pense que c'est ce qu'on entend dans les rumeurs, c'est pas mal la meilleure option qu'il peut faire. C'est-à-dire, j'écoute les offres pour Jake Evans. Donc, si tu obtiens une très bonne offre, par exemple, un choix de premier tour et un excellent espoir, ben là, à un moment donné, tu n'as peut-être pas le choix. T'as peut-être pas le choix, puis tu sais, t'es capable de t'obtenir un joueur en retour aussi, peut-être moins bon que Jake Evans, mais qui peut un peu colmater les brèches jusqu'à la fin de l'année. Et si tu l'as pas, ben tu sais, on a le luxe d'avoir trois choix de deuxième tour, d'avoir deux choix de premier tour. C'est pas la banque de choix, c'est clairement pas le problème des Canadiens de Montréal. La banque d'espoir, c'est pas un problème non plus. Donc, tu pourrais très bien dire, ben je suis prêt à vivre avec le fait de perdre Jake Evans pour rien, mais au moins, j'envoie le message à nos joueurs. Lorsque vous êtes prêt à gagner et que vous m'en donnez, ben je vais vous aider. Je vais vous permettre d'aller le plus loin possible. Je pense que c'est un peu la... Donc, je pense que Kent Hughes fait bien de situer un peu là, en mode attente un petit peu.
Oui. Marie, je te corrige, mini lapsus. C'est deux choix de deuxième tour et trois choix de troisième tour pour le Canadien. Peut-être que ça pourrait être trois choix de deuxième tour, mais Jake Allen devra remplir la condition avec les Devils du New Jersey, ce qui semble quand même peu probable. Ça va être à surveiller, cette situation-là de Jake Evans. J'ai comme l'impression que ce n'est pas la dernière fois cette semaine qu'on en parle ensemble. Marquis, tenez de courir après votre argent ou après les remplaçants. L'application League2Go s'occupe de tout. Concentre-toi sur le jeu et League2Go va s'occuper du reste. On a une autre transaction d'importance, Marquis, en fin de semaine, celle de Ryan Lindgren qui prend la direction du Colorado, accompagné de Jimmy Vesey, de Kempf contre Calvin Dehaene, Parsinen, un choix de deuxième et de quatrième tour. Moi, je vais te le dire, ben franchement, Marquis, je ne l'ai pas vu venir. Après l'acquisition de JT Miller, j'avais l'impression que les Rangers, on y croyait, puis que même si on rentrait en série comme huitième, on pouvait faire des dégâts. Est-ce qu'elle t'a pris de court, cette transaction-là des Rangers?
Ouais, ben quand même un peu. Tu l'as bien mentionné. T'sais, on n'est pas obligé de voir les Rangers de New York abandonner à quelque part. C'est une équipe qui va toujours se dire on est prêt à se battre chaque année. Tu l'as mentionné. Je pense aux Kings de Los Angeles il y a plusieurs années où on était 8 au 8e rang, mais on savait qu'on avait une meilleure équipe que ça. T'entres en série, puis là, tu es en mesure de créer des surprises, de te rendre loin. Les Rangers de New York, c'est exactement dans cette catégorie-là. Il y a beaucoup de choses qui vont mal. Là, Chris Kreider, qui est blessé, n'a pas une très bonne saison. Alexis Lafrenière, c'est la même chose. Je ne parle même pas de Mikas Zibanejad. Puis honnêtement, Dezo, je ne suis pas certain que c'est une bonne décision de la part de Chris Drury. Je comprends que là, Ryan Lindgren devenait joueur autonome sans compensation, que l'équipe va un peu nulle part. Puis je comprends que Ryan Lindgren n'a pas nécessairement de grosses statistiques. Mais sur le plan défensif, sur le plan de la culture de l'équipe, c'est dur d'avoir mieux. C'est quelqu'un qui bloque beaucoup de lancers. C'est quelqu'un qui était prêt parfois à revenir au jeu alors qu'il avait une grave blessure au genou ou aux chevilles, par exemple. C'est quelqu'un qui est dur sur son corps. Je pense qu'au niveau du leadership, du message que tu peux envoyer aux jeunes joueurs, mais aussi aux vétérans, c'était quelqu'un qui était extrêmement essentiel à l'équipe et surtout quelqu'un de complémentaire pour un Adam Fox qui est offensif mais qui a peut-être un peu plus de problèmes défensifs. Je comprends qu'on va avoir de la place sur la masse salariale cet été. Je comprends qu'on va être en mesure d'ajouter des défenseurs. Tu sais, je te lance des noms comme ça. Ivan Provorov, Vladislav Gavrikov. Est-ce qu'on peut ajouter un défenseur comme ça? Peut-être, mais premièrement, ce n'est pas garanti. Et on le sait, là, ce qui a été véhiculé par rapport à Chris Drury, comme quoi tu sais, le bien-être des joueurs un petit peu, ça prenait un peu le bord par moment. Tu sais, regarde Bartley Goodrow, regarde Jacob Trouba. Ça peut peut-être revenir au visage des Rangers. Je ne dis pas que ça va être le cas. Mais je ferais quand même attention à ça. Puis c'est ça, de l'autre côté, c'est vraiment ça. Je trouve que c'était un gars qui était parfait pour les Rangers. Et là, tu le sors, là, c'est pas mal moins évident de trouver une autre solution que de rester avec lui. Tu sais.
Ouais, salutations à Robin Lemalin sur la messagerie texte. C'est vrai qu'Adam Fox s'est blessé long terme, puis assurément que ça l'a dicté la suite des choses. On s'est probablement dit que ça ne vaut pas la peine de continuer. Alors, allons dans une autre direction et meilleure chance l'année prochaine. Le problème, Marty, avec ce que tu as mentionné, puis tu n'as pas tort, là, probablement que c'est ça qui va arriver, puis on va regarder les différents défenseurs. C'est que le 1er juillet, tu le sais très bien, souvent on peut se tromper et on peut donner de mauvais contrats. Ça s'est vu à plusieurs occasions. J'ai hâte de voir comment les Rangers vont s'y prendre pour éviter ce piège-là. Les Rangers vendeurs, ils sont pratiquement nez à nez avec le Canadien au classement. Est-ce qu'on peut faire la déduction, Marty, que Montréal aussi devrait être vendeur d'ici le 7 mars?
Moi, je pense que ça pourrait être complètement le contraire. Tu sais, on vient de parler de la situation de Jake Evans et de Kirby Dach, qui n'est pas nécessairement évidente que tu as un peu les mains liées, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas envoyer le message au vestiaire qu'elle t'abandonne nécessairement. Je pense que c'est un peu le contraire, puis je vais même aller par extension, je vais aller du côté des Bruins de Boston. Tu sais, tu as beaucoup de rumeurs. Je regardais ce matin, là, tu commences à avoir des rumeurs comme quoi les Flames seraient peut-être intéressés. Et là, ce sera confirmé, mais est-ce qu'ils sont intéressants à un Brandon Carlo, par exemple? Mm-hmm. On se rappelle que là, Brad Marchand, il y avait toutes sortes de rumeurs. Lui ne veut pas partir de Boston. Donc, tu sais, on verra bien. Mais tu sais, de voir que les Bruins coulent en ce moment, que les Rangers commencent à vendre, puis tu regardes pour la huitième position, est-ce que les Canadiens de Montréal ont une bien moins bonne équipe que les Sénateurs d'Ottawa et les Red Wings de Détroit? Moi, je pense qu'on est en mesure amplement de se battre avec ces deux formations-là. Donc, moi, je pense que c'est le contraire. Le fait de voir des Rangers et les Bruins couler, si tu peux voir les Canadiens passer devant eux, là, c'est pas trois équipes que tu dois devancer, quatre équipes que tu dois devancer, c'est soudainement deux. C'est pas mal moins compliqué. Ce sont des rivaux de section. Tu peux te mesurer contre eux quand même. Si tu es capable d'aller chercher quelques victoires contre ces deux formations-là, ben c'est parfait. J'ai tendance à dire que ça peut peut-être encourager encore plus Kent Hughes à se dire ben, on va tenter d'y aller, puis advienne que pourra, dans le fond.
Ouais, c'est quand même ironique d'avoir Owen Beck au centre de la deuxième ligne, comme c'est mentionné à plusieurs occasions sur la messagerie texte. Mais, Marty, on en a quand même parlé beaucoup ensemble dans un autre podcast, notre podcast La Relève. Pas surpris de voir les performances de Beck, même si c'est d'un beau fait d'armes là, pour le jeune joueur d'avoir la confiance de son entraîneur et de piloter un trio aussi important qui, jusqu'à maintenant, fonctionne très bien. Tu nous as parlé de rumeurs de Brandon Carlo avec les Bruins de Boston. Je vais t'amener une autre rumeur, celle de Brock Besser qui pourrait être échangé des Canucks de Vancouver. Un peu comme les Rangers qui ont connu une saison, ma foi, exceptionnelle en termes de montagne russe, toute la saga Jacob Trouba, toute la saga Capo Caco. Matt Rempe qui fait encore des siennes pas plus tard qu'hier. Là, Besser avec les Canucks, lui aussi, c'est assez rocambolesque. On a eu la saga J.T. Miller contre Elias Pettersson. Ouais. Quinn Hughes qui voulait participer à la Coupe des Quatre Nations, finalement, ne peut pas, revient pas. Besser, lui, il avait une offre de contrat sur la table plus tôt cette année. Cette offre-là a été retirée. Et là, aujourd'hui, on pense transiger joueur autonome sans compensation. Évidemment, ce n'est pas encore fait, mais c'est dans les cartons.
Ouais, Brock Besser, je te dirais, c'est un cas que je trouve assez intriguant. Tu sais, on a parlé du Wild du Minnesota tout à l'heure, puis Brock Besser est un gars natif du Minnesota. Je sais que c'est quelqu'un qui adore son état, pour toutes sortes de raisons. Là, pour ceux qui n'ont pas suivi son histoire, son père a eu énormément de problèmes de santé. Ça, c'est venu le chercher beaucoup. Finalement, son père est décédé il y a plusieurs années. Mais tu sais, Brock Besser a souvent mentionné à quel point le Minnesota, ça lui tenait à cœur, qu'il voulait retourner là. Je sais que l'an dernier, son agent a tenté de faciliter une transaction pour le faire passer des Canucks au Wild, mais pour la situation de plafond salarial que j'ai mentionné tout à l'heure, ça n'est jamais survenu. Le Wild n'a jamais été capable de faire quelque chose. Mais Brock Besser, je me demande si à quelque part, il ne se voit pas justement, un peu à l'instar d'un Thomas Vanek il y a environ une dizaine d'années lorsqu'il était arrivé avec les Canadiens de Montréal. Donc, une fin de parcours intéressante. Te retrouver avec un long parcours. Vanek, lui, c'était en finale de l'Est en 2014, on s'en rappelle. Je me demande si ça pourrait pas être ça. De ne pas perdre Besser pour rien, obtenir des actifs. Besser pour aller connaître un bon parcours. Et là, ben, je parlais des situations de Ryan Suter, de Zach Parise pour le Wild. Mais ben là, tu as 15 millions qui partent d'un coup. Et moi, je suis convaincu que Bill Guérin veut s'ajouter un joueur majeur, un excellent joueur, puis notamment au niveau de la finition, d'être en mesure de marquer des buts. Je me demande si un gars comme Brock Besser, puis si Besser lui-même ne se dit pas, ben écoute, moi, advienne que pourra, je m'en vais au Minnesota, j'ai bien beau avoir n'importe quelle offre, je refuse, même si les Canucks de Vancouver ont été prêts à donner beaucoup d'argent, Je sais que c'est probablement la durée de l'entente qui fait défaut présentement, là, mais je me demande si, justement, lui ne serait pas intéressé à retourner là. Et le hasard fait bien les choses. Là, le Wild a justement un paquet d'argent qui est disponible d'un coup. Tu as des Marcus Johansson qui deviennent joueurs autonomes aussi. On parle de Nyquist, lui également devient joueur autonome. Donc, tu sais, il va y avoir des ouvertures. Là. Je dis le Wild, mais ça pourrait être d'autres équipes. Là. Mais j'ai comme l'impression que Brock Besser, c'est pas sûr qu'il veut vraiment rester avant
pouvoir. Ouais. Et de l'autre côté, Marky, tu devras satisfaire un Kirill Kaprizov qui, lui aussi, tu vas vouloir te convaincre pour signer à long terme. On le sait, c'est toujours dans l'air. Bill Guérin travaille très fort là-dessus. Même le propriétaire est sorti à cet effet-là plus tôt cette année pour conserver les services de Kirill Kaprizov. Ça va faire couler beaucoup d'encre dans les prochains mois. Bien sûr, pour les gens qui se posent la question, 28 ans, quand même une production de 36 points cette saison. C'est vraiment une saison un peu décevante là, pour ses standards. Il en avait quand même marqué 40 l'année passée. Marty, petit dernier sujet avant de te laisser aller. Mathieu Olivier, prolongation de contrat à venir, selon Aaron Portsline, c'est sur le point d'être fait entre Mathieu Olivier et Don Waddell, un joueur qui est vraiment sorti de sa coquille cette année, que les gens ont appris de plus en plus à découvrir. Ça fait quand même longtemps qu'il est dans le show, là. Mais ça reste que les gens le connaissent plus, autant par l'apport offensif que par les batailles. Mathieu Olivier, selon Aaron Portsline, qui est un peu le beat reporter des Blue Jackets de Columbus, ce serait tout près d'une entente.
Ouais, mais c'est pas vraiment surprenant. Tout ce qu'on a entendu depuis le début de la saison par rapport à Mathieu Olivier, comme quoi, à un moment donné, il était dans les rumeurs de transactions, mais je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, on a eu l'information comme quoi c'est Rick Nash qui avait dit, dans des réunions avec les Blue Jackets, qui avait dit, lui, vous ne l'échangez pas, vous le gardez, il est pas mal plus important à votre équipe que vous le pensez. Donc ça, c'est premièrement. Puis deuxièmement, l'entraîneur-chef des Blue Jackets, Dane Evason. Dane Evason, là, pour ceux qui le connaissent quand même depuis longtemps, a dirigé le Wild du Minnesota, a été très longtemps avec le club école des Prédateurs de Nashville à Milwaukee. Mais Dane Evason, partout où il est passé, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur, il y a beaucoup de défauts. C'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement capable de s'ajuster selon ce que l'entraîneur-chef adverse va lui donner. Mais par contre, c'est un gars d'intensité, c'est un gars de caractère qui aime les gars, d'équipe, qui sont prêts à frapper, qui sont prêts à se donner corps et âme pour l'équipe. Donc, je pense que pour lui, un Mathieu Olivier, de l'avoir dans sa formation, non seulement il va être très heureux de l'avoir de son côté, capable de jeter les gants, capable de frapper, capable de tourner le vent de côté, puis capable de jouer au hockey. C'est pas simplement un gars qui se bat et qui obtient 2 points à 60 matchs, c'est vraiment pas ça. Il est capable de jouer au hockey. Mais en plus, ce genre de joueur-là, Dane Evason, il aime leur donner des rôles parfois un peu plus importants. Donc là, c'est là que on parle de plusieurs années pour Mathieu Olivier. Moi, je ne suis pas surpris. Je pense que c'est quelqu'un qui entre dans la culture qu'on veut amener à Columbus, amener des gars d'intensité, de caractère et vraiment encadrer un peu plus tout le monde autour. Puis ben, c'est ça. Je pense que finalement, Olivier va simplement... simplement connaître de bons succès à Columbus.
Ouais, et ce sera à surveiller ce dossier-là d'ici demain. En fait, c'est pas compliqué, Marky. On va se reparler demain. J'espère que vous avez apprécié la petite formule express. J'espère que vous serez encore avec nous tout au long de la semaine pour surveiller l'actualité de la Ligue nationale de hockey, pour décortiquer les différentes transactions qui auront lieu à chaque journée, les différentes rumeurs, ce qu'on va entendre à gauche et à droite. Si ça a été le cas, on se redonne rendez-vous demain à 7h30 cette fois-là. Aujourd'hui, c'était exceptionnel. On le faisait un peu plus tôt parce que le Canadien est sur le point de commencer son match contre les Sabres de Buffalo. On va être moins pressé par le temps lors des prochains épisodes et on pourra prendre plus de vos questions. J'espère que vous avez apprécié. Merci, Marty, d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir, Deso. Toujours agréable.
Et on se donne rendez-vous demain, 19h30, pour un autre épisode de Radar. Bye tout le monde. Ciao.